Alors, donc, ce dont je voulais vous parler, ce sont les émotions cachées. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un terme qui est venu comme ça au fil de nos formations, notamment avec Aline, parce que on s'est rendu compte que, bien sûr, les émotions visibles, les colères, les peurs, les phobies, on sait bien les appréhender, mais qu'il y avait toute une partie, on peut dire la face cachée de l'iceberg, d'émotions qui ne montrait pas le bout du nez, si je peux dire, qui se cachait derrière d'autres manifestations, des façons de faire, et notamment les troubles psychosomatiques. Ça a été un petit peu mon cheval de bataille pendant beaucoup d'années de constater, je l'ai déjà dit, mais peut-être pas à tout le monde, que, et c'est pas moi qui l'ai inventé, qu'en médecine, 2/3 des personnes qui consultent n'ont pas de maladie. Et quand on creuse, qu'on cherche et qu'on avance, on se rend compte que dans ces 2/3-là, la grande majorité ont des émotions, mais si ces émotions créent des symptômes, c'est qu'elles ne sont pas exprimées. Et vous avez tous plus ou moins dû rencontrer des gens qui libéraient une émotion et dont le symptôme, pas forcément celui qu'on attendait, mais dont le symptôme se résolvait, se dissipait. Donc, on a travaillé là-dessus, on a essayé de comprendre. Alors, d'où viennent ces émotions cachées? La semaine prochaine, il va y avoir un webinaire avec Annick. Je ne sais pas si elle est là ce week aujourd'hui. Elle devrait être là. Elle était là la semaine dernière. Annick est sage-femme et a travaillé avec la psychologie périnatale, notamment avec Ludwig Janus, mais avec une autre intervenante spécialisée là-dedans d'origine hongroise. Et on sait qu'il y a des émotions, je pense que ça ne surprendra personne, des émotions qui se développent pendant la grossesse. Hein. Ce n'est pas la faute de la maman, ça peut être d'autres circonstances, que le bébé commence déjà à capter des émotions. On sait que la naissance peut être très traumatisante, comme dit Ludwig Janus dans son livre. Faire passer une tête de 10 cm dans un conduit qui fait 10 cm et qui n'est pas tout droit, ce n'est pas une partie de plaisir et ça peut parfois être dramatique. Donc tout ça, c'est propice à des souffrances qui vont structurer des émotions et qui vont structurer des comportements. On parle de lien mère-enfant, ça c'est Annick vous en parlera la semaine prochaine. Et il est très probable que soit à un stade préverbal, mais aussi après, quand on a, on peut dire, des stress, des traumatismes plus ou moins importants, eh bien, on est bien obligé de s'adapter, de réagir, pour survivre finalement, avec plusieurs façons de faire, selon un petit peu probablement son tempérament, son comportement, son conditionnement. Les principales façons, donc, on en a déjà beaucoup parlé, hein, mais c'est un petit peu, c'est un peu s'assimiler à des mini-traumatismes, hein, un enfant qui subit la colère de ses parents, il va forcément être agressé physiquement dans son corps, dans sa sécurité, donc il va falloir qu'il s'adapte, il va pouvoir s'adapter de différentes façons. Je parle de subir la colère, ça peut être subir d'autres violences, ça peut être les peurs, ça peut être la peur d'être abandonné, ça peut être beaucoup de choses. Et donc j'avais un peu listé les façons qu'on a de réagir, notamment dans ces comportements, pour éluder ces émotions. Alors éluder ces émotions, ça veut dire ben, je les sous-estime au niveau adulte, hein, je les sous-estime, je les élude. Elles sont cachées, je ne m'en rends pas compte, ou elles sont complètement inconscientes. Il y a plusieurs niveaux, je dirais, de façon de faire pour cacher ces émotions. Les principales façons d'éluder ces émotions, je les ai classées, mais ça rejoint les différents modes de réaction à une agression, à un traumatisme. Donc, comme vous savez, c'est soit l'agressivité, soit la fuite, soit l'inhibition, ce qu'on appelle le figement. En travaillant là-dessus, je n'ai pas inventé, hein, j'ai lu des choses, j'ai réfléchi, etc. Je me suis rendu compte que dans les comportements du quotidien, on pouvait, quand on a une émotion cachée, donc on n'identifie pas, adopter plusieurs types de comportements. Si je ne suis pas bien et tout, je vais pouvoir avoir tendance à projeter sur l'extérieur. Je suis mal à l'aise, mais ça me met en colère, c'est la faute des autres, je critique, je suis dans une plainte, un jugement, dans des processus mentaux de manipulation, c'est-à-dire des moments où je n'ai pas accès à mon émotion, je n'en prends pas la responsabilité et je vais en faire porter la responsabilité aux autres. Ça peut aller aussi jusqu'à l'envie, ça peut aller jusqu'à une logorrhée, je décharge mon stress sur l'extérieur, une hyperactivité ou un défoulement dans les plaisirs qui peut aller jusqu'à la luxure. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi tout ce que je viens de vous énumérer rapidement, la liste n'est pas limitative. Je vous ai parlé de colère, d'envie, de luxure, et de la même façon, on peut, ça c'est les mouvements de projection sur l'extérieur de mon malaise intérieur, parce que j'identifie pas, je n'assume pas l'émotion, je n'accueille pas, on peut dire. Et puis dans les moments de fuite, il va y avoir aussi le repli sur soi, donc une sorte d'avarice, je me protège pour éviter de m'exposer. Il va y avoir aussi une compensation dans les addictions, c'est-à-dire pour ne pas sentir ce besoin, ce manque, ce vide, cette angoisse extrême, je vais aller dans les addictions, les plaisirs. Donc ça touche la gourmandise. Et puis si on mélange la fuite et la colère, on va se persuader toujours qu'on a raison, que c'est les autres qui ont tort. On va appeler ça l'orgueil. Donc ce que je viens de vous citer, c'est ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Il y a d'autres distorsions émotionnelles. Ça a été fixé arbitrairement par la religion chrétienne. Il y a d'autres blocages de ce type qu'on trouve dans l'énéagramme, pour ceux qui connaissent ça, hein, et qui portent au nombre de 9 ces modes de réaction. Le problème culturellement, c'est que ce qui est considéré comme, c'est-à-dire la personne est en souffrance quelque part, n'arrive pas à exprimer son émotion, et en plus on lui met un jugement, une culpabilité. Donc on a une période où la compréhension et l'analyse de ces choses permet d'aller un petit peu au-delà, et j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment. Dans les modes les façons d'éluder ou de cacher les émotions qu'on a acquis, je pense, très tôt dans la petite enfance, parce que soit instinctivement comme un animal qui sait qu'il doit se protéger, soit parce que l'enfant commence à avoir une pensée qui s'élabore, le petit enfant élabore des stratégies, des façons de s'adapter. Donc je vous ai parlé de la projection sur l'extérieur, hein, la colère notamment, et tout ce qui va porter à devenir quelque part agressif sur l'autre. Dans les mécanismes de fuite, ce que j'ai listé, mais c'est, comme je vous disais, c'est pas limitatif, il y a le mensonge, c'est-à-dire que quelque part on se raconte des histoires, on se ment à soi-même. Et quand je dis ça, c'est pas un reproche, c'est pas une critique, quelque part on en a besoin, c'est-à-dire on a besoin de se faire des films, parce que parfois la réalité est trop dure à avaler. Il y a dans les mécanismes de fuite face à des émotions qui seraient trop pénibles à supporter, il y a l'évitement, il y a la fuite dans les pensées, la rêverie, voire la méditation, voire je respire pour que ça aille mieux. Et quand je dis méditation, ça ne veut pas dire que la méditation est nuisible, ça veut dire que si on reste que là-dedans, quelque part on échappe à sa partie émotionnelle, donc quelque part sa partie incarnée, sa partie physique. Dans les mécanismes de fuite, j'ai aussi noté ce qu'on appelle la rationalisation. Je me sers de mon mental pour expliquer, pour me donner des bonnes raisons, parce que quelque part ça me rassure, mais je me coupe de moi-même. Il y a mon corps qui dit quelque chose et il y a ma tête qui essaye d'échapper à ça. J'aime bien le terme de pour parler du travail qu'on fait, de sentiment, le sentimentaliser. Et c'est bien de raccorder les autres. Et Didier nous a dit, je crois que c'est la dernière fois, le dernier webinaire, la phrase de Lao Tzu, quand on pense, on ne sent pas, quand on sent, on ne pense pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas si simple finalement d'arriver à accorder les deux. Moi, j'utilise souvent l'image du sablier. En haut, vous avez le mental. En bas, vous avez le physique. Et il y a une espèce de petit pincement entre les deux. Et c'est à ce niveau-là que les émotions ont tendance à forcer ou à bloquer le passage. Dans les mécanismes de fuite des émotions, il peut y avoir aussi la résignation, le repli sur soi, on en a parlé, la compensation, toutes les addictions. Et puis... tout ce qui fait que quelque part on évite. Les fuites peuvent être physiques comme dans les phobies, parce que la réaction émotionnelle est trop, trop forte. Troisième mécanisme pour éviter ces émotions qu'on a, il y a ce qu'on peut appeler les coupures. On se coupe, ça correspond un petit peu au figement. L'émotion initiale a été tellement forte et tout ce qui me le rappelle crée sinon une émotion forte puisqu'elle est cachée, mais disons une appréhension tellement forte que je vais me couper. Je vais être étourdi, je vais avoir des absences, je vais être dans une confusion. C'est des choses qu'on rencontre assez souvent, ou dans une sorte d'apathie. C'est-à-dire je me coupe, quoi, je disjoncte. L'exemple le plus caractéristique est la procrastination. J'ai un élan de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui me pouffe, ça me plombe et je n'arrive pas à aller plus loin. La procrastination concerne 50% des adolescents et 20% des adultes, donc c'est pas rien. Il est possible que ce soit des mémoires de perte de connaissance, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça passe, de même que beaucoup d'addictions d'ailleurs, passe par une espèce de vide, de coupure. On peut dire qu'on disjoncte. Et cette coupure est très, très anxiogène. C'est comme si on avait une petite mort, d'où je passe à autre chose, mon esprit est détourné, ou bien je vais compenser. Je sens un vide tel qu'il va falloir que je mange, que je boive, que je prenne des drogues, que je prenne des médicaments. Donc tout ça, on en reparlera plus tard, vous pourrez poser des questions. Tout ça met en évidence un très grand nombre de mécanismes que nous avons, auxquels nous sommes, on ne peut pas dire confrontés, puisqu'on n'y fait pas, on ne s'en rend pas compte, mais qui nous concernent tous. Moi, à force de travailler, de réfléchir, je me suis rendu compte que il restait les choses cachées, que on travaille sur soi, on évacue. Et puis, le problème, c'est que ces émotions cachées, elles sont pas, comment dire, elles sont pas en dessous, elles sont un peu, sont pas apparentes, et qu'elles peuvent créer une sorte de malaise. Et vu de l'extérieur, on appelle ça des défauts. C'est-à-dire que il y a un peu la double peine. Et le regard des défauts qui engendre soit la culpabilité, soit le reproche de l'autre ou la fuite. Alors, ces mécanismes sont d'une extrême complexité, bien sûr, parce que beaucoup de choses s'interfèrent. Je ne sais pas comment vous avez vécu le confinement, mais le fait d'être contraint, d'être privé un petit peu de ses activités habituelles, le fait peut-être d'être seul, le fait de ne plus avoir les mêmes relations avec les autres, ça nous coupe un petit peu de tous ces moyens qu'on utilise quotidiennement pour éviter d'être face à soi-même dans différents domaines. Et ça, c'est normal, et ça concerne tout le monde. La personne qui n'a pas d'émotions cachées, c'est un être éveillé et tout va bien, tout est bien. En sachant que quand on parle d'émotions délétères qui sont propres à nous créer des perturbations, ça ne veut pas dire que toutes les émotions sont dangereuses, inutiles ou mauvaises. Simplement, il y a les émotions, comme on le sait, sont justes et bonnes et permettent de réagir pour notre survie, pour notre équilibre et puis même pour notre bonheur, hein, puisque je vous rappelle, dans les émotions, il y a la joie. Et le fait qu'une émotion soit gênante, soit embêtante, c'est qu'elle est inadaptée à la réalité de la situation. Et ça, enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais je pense qu'on en est tous truffés de ces moments-là. Quel que soit le travail qu'on a fait, même si on est très fort, même si on a beaucoup réfléchi, même si on a beaucoup compris, beaucoup analysé, il nous reste un petit quelque chose, il nous reste des choses pas réglées, il nous reste des choses qu'on fuit. Et le meilleur moyen de se confronter à ça, c'est souvent dans nos relations avec les autres, parce que les autres souvent nous pointent ce qui va pas, donc ce qui les gêne. Mais la relation est compliquée, parce que si moi je suis par exemple dans la colère et je tombe face à quelqu'un qui est dans la peur, plus je vais être en colère, plus cette personne va avoir peur, et plus sa peur va aiguiser ma colère, ce qu'on appelle la montée en escalade. Donc toutes ces émotions, bien sûr conscientes, mais même inconscientes, et surtout inconscientes, conditionnent aussi nos modes de relation avec les autres. Parce que forcément, quand on est face à quelqu'un, on a bien sûr la protection un petit peu de la barrière sociale, mais surtout avec des gens qu'on connaît, petit à petit, les choses qui nous gênent chez la personne vont nous faire réagir, et notre réaction va le faire réagir. Il y a une espèce d'interaction très, très, très complexe. Et je pense que le chemin d'une évolution dans le sens d'une libération, d'un apaisement, passe par l'identification autant que possible de ces émotions cachées. Alors moi, je n'ai rien découvert, hein. c'est un travail, c'est une réflexion, et c'est une façon d'exprimer des choses qui, je pense, concernent tout le monde et auxquelles peut-être vous avez déjà réfléchi. Et je serai heureux d'avoir vos témoignages tout à l'heure. Alors après, comment faire ? Comment faire pour se débarrasser, c'est beaucoup dire, mais pour gérer, pour résoudre ces émotions qui parfois nous gênent. Ben, je crois que la première chose, comme tout, hein, quand l'émotion, on arrive à la choper, on sait faire, hein, ça fait quoi dans mon corps, je laisse faire, ça part. Et souvent, ces émotions cachées donnent lieu à des manifestations, des sensations physiques très, très subtiles, très fugaces, très rapides. Ce qui ne veut pas dire que ça n'agit pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir très peu de sensations, ça ne dure pas longtemps, mais ça a quand même une action. Simplement, ces émotions cachées, c'est comme une myriade, comme des insectes. On en enlève un, on en enlève une, on en enlève une autre. Il faut parfois du temps pour que l'effet soit visible. Parfois, comme dans les séances de régulation, résolution émotionnelle classique, un événement a des grandes conséquences, mais souvent l'effet est très, très subtil. Donc la première chose qui nous permet d'évacuer ces émotions, je dirais, c'est une sorte de conscience, d'auto-observation, sans sombrer dans le narcissisme, sans aller dans l'obsession d'à tout prix laver plus blanc que blanc, parce que de toute façon, on n'arrive jamais au bout de toutes nos émotions. Et simplement, je crois qu'il faut, enfin il faut, je n'aime pas dire il faut, mais je crois qu'on peut changer son regard sur soi-même. C'est-à-dire que dès le moment où on sait ça, et on en reparlera tout à l'heure, dès le moment où on sait qu'il y a toutes ces petites bulles émotionnelles, sortir de l'idée qu'on est comme ça et c'est une fatalité, et ma mère était comme ça, et mon père, etc. Parce que ces comportements acquis sont peut-être simplement des comportements structurés sur des émotions justement enfouies, cachées. Donc, changer un petit peu le regard et dire, bah, tiens, ce truc qui me gêne, on me le fait remarquer tout le temps, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Et le chemin pour aller au cœur, à la racine émotionnelle, peut être complexe, parce qu'il y a tout un réseau de pensées, d'émotions, de sensations qui s'est greffé là-dessus. Hein. C'est quand on dit je suis complexé, c'est en partie ça. Et parfois, il faut dénouer les nœuds comme comme un sac à nœuds, je dirais. Il faut dénouer les nœuds l'un après l'autre. Dénouer les nœuds, ça veut dire, tiens, je me rends compte que oui, je suis comme ça, on me le fait tout le temps remarquer. Jusque-là, je me suis dit, bon, je me résigne, c'est comme ça, c'est mon tempérament. Donc, la prise en charge de cette contrariété, je dirais, ou ce comportement inadéquat, commence par premièrement accepter. Et accepter, ça fait quoi? Ça me fait quoi d'accepter que je suis irascible, je suis grognon, etc. Ça peut faire que je me culpabilise, ça peut faire que je m'en veux, ça peut faire que ça me met encore plus en colère, ça peut me rendre triste, ça peut. Donc en fait, le point de départ qui est un peu confus peut s'affiner en essayant de premièrement d'accepter et puis de voir ce que ça nous fait d'accepter, de dire c'est comme ça. C'est pas une question de morale, c'est aussi une question de réalisme. Je suis comme ça. Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que ça me fait? Et petit à petit, on arrive à dénouer les chevaux de toutes ces émotions cachées, et puis arriver à avancer un petit peu plus dans le développement personnel. La deuxième chose, donc la première chose, c'est auto-observation, prise de conscience, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, etc. Une sorte de philosophie de vie. La deuxième chose qui peut se produire, qui peut permettre d'aller chercher ces nœuds émotionnels cachés, ces racines, c'est le regard des autres. Le regard des autres, il peut se faire dans les deux sens, il peut se faire de nous sur les autres et des autres sur nous, forcément. Donc, nous sur les autres, ça peut être dans un cadre familial ou ça peut être dans un cadre de soignant. Et le cadre de soignant, on est plus ou moins habitué, simplement, on ne fait pas toujours très attention. Dans les formations que j'ai fait, là, ce que j'ai appelé psychosomatique, enfin, c'est pas très adapté, on fait des exercices où on demande à la personne de nous raconter sa journée. Et Cédric, ici présent, nous a dit, moi j'ai fait ça avec un de mes patients, mais il n'a pas quitté son lit. C'est-à-dire qu'en une demi-heure de séance, il y a eu une foule d'émotions qu'il a évacuées et gérées à chaque fois. Et ça, c'est très productif, d'une part parce que ça permet d'évacuer des pics émotionnels qui nous gênent dans le quotidien, et puis surtout ça permet de prendre conscience, de mieux se rapprocher de la conscience qu'on a de soi. On a eu dans les formations je me rappelle d'une participante qui partant de l'écran, de la présentation du diaporama, certains y étaient, s'est mise à avoir une émotion, une angoisse démesurée et à se rappeler d'un souvenir de quand elle avait 4 ou 5 ans où un kaléidoscope avait été cassé, elle a vu un bout de verre et ça avait fait un drame familial. Et ça, c'était plus de 50 ans après. C'était vraiment la démonstration que cette contrariété peut-être qu'elle avait dans la vie quotidienne, dont l'origine était, dans le cas présent, très, très précis, très, très daté, était enfouie et elle n'en avait pas conscience. Elle n'avait pas conscience de l'angoisse, de la peur qu'elle avait eue, la contrariété de son père qui rigolait, sa mère qui s'énervait. Donc c'était un exemple vraiment très démonstratif de ce qu'on peut tirer de ça. Donc vous pouvez très bien, si vous pouvez, si ça vous chante, faire de cet exercice de... soit le faire au fur et à mesure, mais c'est pas forcément possible, mais faire l'exercice, vous rentrez chez vous le soir ou avant de vous coucher ou quand vous voulez, je dis tiens, je me raconte ma journée. Je me raconte ma journée et donc on peut le faire pour quelqu'un, bien sûr, hein, raconte-moi ta journée, parce que le regard extérieur est plus objectif, mais on peut le faire pour soi, je me raconte ma journée, ce matin je me suis levé, qu'est-ce que j'ai fait, je préparais le café, ah zut, j'avais oublié d'enlever le filtre hier. Minime émotion, petite émergence. Ça fait quoi dans mon corps là maintenant? C'est-à-dire même en revivant, en se rappelant, en se remettant dans la situation, l'émotion peut surgir. Donc on peut le faire pour quelqu'un, on peut le faire pour soi, c'est plus difficile, on peut le faire pour quelqu'un, parce que l'avantage de ces émotions cachées, c'est qu'elles sont souvent visibles de l'extérieur. Tu veux parler, Olivier?
Oui, je voulais confirmer ça. En fait, je me suis aperçu que ce dont on se souvient dans une journée, c'est ce qui est émotionnellement intense.
Oui.
soit les joies, soit les déplaisirs, les désagréments, mais tout ce qui est, je sais pas, j'ai pris l'autoroute, il s'est rien passé, je me suis ennuyé comme un rat mort,
oui.
Et d'un coup, il y a un camion qui arrive, il y a un truc, il y a un machin dont on va se souvenir.
Oui.
Effectivement, c'est l'esprit, tout ce qui n'est pas émotionnel, en fait, le vire de nos souvenirs, et heureusement d'ailleurs. Hein.
Oui, oui. On rationalise beaucoup, et du coup, on... Ben bien sûr, bon, ça va, je suis grand, je suis chat, c'est pas grave. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on sous-estimait, c'est-à-dire, bon, le chien aboie encore, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave, bien sûr, mais ça me fait quoi dans mon corps? Ça me fait quoi là maintenant? Donc, merci Olivier, ça alimente un petit peu mon débat. Donc, les émotions qu'on s'observe à soi, les émotions qu'on voit chez les autres, et puis la troisième voie de travail, c'est toutes les somatisations, c'est-à-dire quand c'est vraiment enfoui. Et là, je pense que souvent, c'est dans le domaine de l'inconscient. C'est pas que des émotions éludées ou sous-estimées ou cachées, c'est souvent vraiment enfoui dans l'inconscient. Mais cet inconscient, il n'est pas forcément très, très profondément. Il peut être à fleur de peau. Et dans ces, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais là encore, invitation à ne pas négliger les petits mots qu'on a, ne pas se résigner. Ça ne veut pas dire qu'on va tout résoudre, hein. Il y a des choses qu'on a beaucoup de mal à résoudre parce que c'est tellement enfoui et ça remonte à tellement loin et que ça peut toucher du transgénérationnel et tout. Mais les choses qui contrarient sont... comment dire, gorgées d'émotions, les choses physiques qui nous contrarient, les manifestations physiques sont gorgées d'émotions, soit parce qu'un symptôme qui dure, ben, ça finit par taper sur le moral, par énerver, par attrister, etc. Donc un conseil, si vous avez quelque chose qui vous contrarie, essayez de trouver premièrement ce que ça vous fait. Qu'est-ce que ça vous déclenche comme émotion d'avoir... ce genou qui me fait mal depuis si longtemps, ce mal de dos, ce mal de ventre, etc. Donc, première chose, chercher l'émotion consécutive. Celle-là, elle est souvent plus facile à avoir, bien que souvent, on s'est habitué, on s'est raisonné. Bon, de toute façon, c'est comme ça, ma mère avait toujours mal à son dos, donc c'est comme ça, il faut que je me résigne. Ça fait quoi de se résigner? L'émotion n'est pas loin. Ça m'énerve, ça me rend triste. Donc, chaque fois que vous avez l'occasion, et il suffit parfois de penser aux symptômes, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça me fait d'avoir cette manifestation? Après, la deuxième chose, je parle des somatisations, c'est d'essayer de trouver ce qui déclenche. Quelle est la contrariété, quelle est la situation, hein, c'est un peu ça, qui a déclenché le symptôme. Quelle est, moi j'ai vu ça de nombreuses fois, situation qui déclenche, il y a des gens qui ont des diarrhées dès qu'ils vont en public. Et ça en général c'est très payant. Donc ça c'est pour vos patients, mais aussi pour soi. Après on part sur la résolution émotionnelle telle qu'on la connaît, la situation, raconte-moi au présent, ça fait quoi dans votre corps? Et là encore, enfin, ce qu'on conseille, hein, dans MRS notamment, c'est de choper l'émotion quand elle est là, c'est-à-dire pas trop faire de discours, pas dire est-ce que vous avez une émotion, de même que quand les gens racontent la journée ou quand vous voyez une émotion en cours de consultation, pas essayer de dire bon, vous avez une émotion là, etc., c'est quoi? C'est leur dire... avec la façon adaptée à la personne. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps là maintenant? Ah, ben je suis en train de penser. Non, mais ce que vous sentez là maintenant dans votre corps. Parce que souvent, l'émotion, de l'extérieur, on la voit, mais la personne ne s'en rend pas compte. Donc, demander à la personne, ça fait quoi dans votre corps? Ça peut faire partie d'une conversation avec des amis ou d'autres. Ça peut faire partie d'une consultation. En sachant que, comme on m'a toujours appris, la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Donc, il y a aussi une façon de mettre les formes. Si on coupe la parole à la personne en lui disant « taisez-vous, dites-moi ce que ça fait dans votre corps », ça peut créer une crispation. Donc, il y a une façon, je dirais, polie de le dire, en étant quand même assez sans trop attendre, sans trop expliquer, sans trop. Parce que ces émotions sont souvent très fugaces. Donc, essayer de choper le bon moment. Moi, j'ai essayé avec des proches et tout. Ça fait quoi dans votre corps? Non, papa, pas Tipeee, pas maintenant. Enfin, donc, faut pas qu'il le voie trop venir. C'était à l'époque de Tipeee. Mais quand c'est amical, quand c'est bienveillant, quand c'est. Souvent, ça passe. Des fois, ça passe pas. Mais si ça passe pas, c'est pas grave. Parce qu'après, on peut discuter, expliquer. Voilà. Donc, émotion cachée, émotion éludée. Je pense que les plus accessibles, c'est, enfin pour nous, hein, je parle à titre personnel et même dans une relation de soins, c'est les émotions qu'on sous-estime. Les émotions, on se dit, ah, mais non, c'est rien. Ou on se raisonne, ou on se dit, oui, c'est bien, je suis agacé, mais bon, c'est pas grave, c'est les événements de la vie, c'est comme ça. Ça touche une sorte de résignation et de refoulement. Donc là, je vous invite à dire, bon, d'accord, c'est pas grave, hein, le chien aboie, le chat miaule, j'ai oublié de remplir la cafetière ou je sais pas quoi, de mettre l'eau. Ça paraît complètement dérisoire, rationnellement, ça vous paraît dérisoire de s'énerver parce qu'on a oublié de mettre le filtre à le café ou qu'on n'a pas préparé le café de la veille ou je ne sais quoi d'autre parce que zut, j'ai mal essuyé mon. Mais si objectivement, effectivement, c'est pas grave, subjectivement, ça peut résonner avec des choses qui nous contrarient. Donc la question, c'est pas de dire je devrais pas et pourquoi et comment, etc. La question, c'est de dire. D'accueillir, d'accepter, de dire, ben oui, ça me fait quoi? Ça me fait quoi dans mon corps? Parce que ce petit truc qui semble anodin et que je ne devrais même pas avoir le droit de penser, que je ne devrais même pas avoir le droit de m'énerver, d'être ému, etc., ben c'est quelque chose qui est vraiment intime, qui est vraiment important. Donc, voilà. Moi, j'ai souvent eu beaucoup de gens qui venaient me voir en disant, c'est un peu du calme, mais quand même, pas trop. Ce qui me disait, j'ai mal au ventre, je veux savoir pourquoi. Et au bout d'un moment, enfin, au bout d'un moment, oui, enfin, chaque fois pratiquement, je disais, mais vous voulez savoir pourquoi vous avez mal ou aller bien sans savoir pourquoi? Et c'est un peu significatif, un petit peu de notre éducation psy, de notre conditionnement à analyser les choses qui parfois nous éloignent de la solution. Et la médecine, a tendance à éloigner de la solution, c'est-à-dire que on est tellement dans l'analyse, le jugement, les examens pour comprendre le pourquoi du pourquoi, que souvent on évite, on s'empêche ou on prive les gens de leur demander, mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait en termes émotionnels? Et je pense qu'on est tous un peu dans ce fonctionnement-là. On est tous un peu conditionnés à prendre sur soi, à se raisonner, à pas s'écouter. Si on s'écoutait, on s'entendrait. Voilà, je vais peut-être arrêter là, répondre à vos questions. Et voilà, on peut alimenter la discussion. Hein. C'est sûr, enfin, moi, j'ai rien inventé hein, dans tout ça. J'ai ma pratique, j'ai les expériences des formations, j'ai beaucoup de lectures. Ce que j'exprime, c'est pas la totalité des choses, c'est un peu imparfait, c'est avec mes mots. L'important, c'est comment vous le recevez et en quoi ça peut vous être utile. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Et pour mettre le micro, il faut. Voilà. Donc là, c'est Florence.
Oui, c'est Florence. Alors, merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors, je vais essayer de mettre la caméra aussi. Je ne sais pas où est-ce. Oui, voilà, c'est ça. Ça y est. Donc, merci beaucoup. J'avais une question à titre, j'allais dire, aussi personnel que pour des clients. Ça fait quelques années que je travaille en régulation émotionnelle. Ça fait 5 ans bientôt. Et je suis aussi gestalt praticienne maintenant, donc j'ai un petit peu de pratique au niveau des émotions. Au niveau psychosomatique, concernant les migraines, est-ce que vous avez rencontré des problématiques dans vos patients qui souffrait de migraine et que vous avez pu réguler de façon, j'allais dire, définitive, voire très durable sur le plan psychosomatique.
Oui, alors les migraines, c'est bon, d'abord, c'est moins ma spécialité, j'en ai vu quelques-uns quand même. C'est souvent assez complexe parce que le facteur émotionnel n'est pas unique, hein, comme souvent d'ailleurs dans ces problèmes psychosomatiques. Donc là, ben, pareil, la première étape, ça vous fait quoi d'avoir toujours cette migraine? Deuxième D'accord. étape, essayer de trouver... Je vais essayer de ne pas passer trop vite sur la première étape. Première étape, ça vous fait quoi d'avoir la migraine? Quand on demande ça à la personne, ce n'est pas forcément au moment où elle a la migraine.
C'était ça ma question, parce que parfois, quand elle est en pleine, c'est compliqué parce que c'est trop douloureux. Alors, je mets juste le son en haut-parleur parce que ce sera plus confortable pour moi. C'est trop douloureux. Et quand elle n'a plus la migraine, parfois, elle a du mal à se reconnecter à cette douleur-là, en fait.
Donc, première étape, essayer de même s'il n'y a pas la migraine, on ne peut pas partir sur le symptôme pur. Mais la personne, quand elle a eu des crises de migraine, elle s'en souvient. Ça vous fait quoi, même de façon un peu générale, d'avoir constamment ces crises de migraine, c'est-à-dire l'émotion due aux symptômes? Ah ben ça me complique la vie, j'arrive pas à comprendre, etc. Oui, mais ça vous fait quoi? Qu'est-ce que ça déclenche? Au besoin, on peut nommer les émotions. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que ça vous dégoûte? Ah ben ça m'énerve. Et dès le moment où la personne dit ça m'énerve, ça fait quoi dans votre corps là maintenant? Elle a exprimé, elle s'est branchée sur la colère ou la tristesse, hein, ça peut être autre chose. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de chercher votre migraine. Vous l'avez eu quand? Eh ben, je l'ai eu il y a 3, 4 jours, 5 jours, 8 jours, peu importe. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose avant? Ben oui, c'est le jour où je devais recevoir ma belle-mère à la maison, etc. Racontez-moi la situation au présent. Ben voilà, je prépare mon repas et puis j'entends sonner et c'est là que je commence à sentir que ça me crispe. Fermez les yeux, ça fait quoi dans votre corps? Donc essayez de raccorder l'événement, le symptôme avec... on n'entend pas Florence, le micro est fermé. Il faut ouvrir ton micro, il est fermé. On n'entend pas.
Voilà, très bien. Voilà. Je disais, aller investiguer effectivement tout le contexte émotionnel rattaché à cet événement ce jour-là, quoi.
Oui, mais investiguer, ça veut dire faire raconter. Et puis dès le moment où c'est quoi qui te contrarie plus dans ta belle-mère arrive, ben c'est rien que de voir la façon dont elle regarde si le ménage est bien fait. Ferme les yeux, ça fait quoi dans ton corps?
D'accord, très bien.
Donc c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est ben non, je ne sais pas, il ne s'est rien passé spécial. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ben, l'autre jour, tu as eu la migraine. Raconte-moi la journée, raconte-moi ce qui s'est passé. Ben, voilà, je me lève, je vais préparer le café. J'entends les enfants qui commencent à crier. Et bon, j'ai l'habitude. Mais donc, quand elle dit ça, j'entends les enfants qui crient. Quelque part de l'extérieur, on le perçoit. Ça fait quoi dans ton corps là maintenant?
D'accord.
Et c'est à la fois thérapeutique, mais aussi c'est une sorte d'investigation. J'essaye de voir si ça fait quelque chose.
C'est
vraiment rare. Et on risque rien. Même s'il n'y a pas d'émotion, ça fait quoi dans ton corps là maintenant? Ben non, ça fait rien. Non, j'ai pas d'émotion. Okay.
Ok.
On continue.
Et quand tu dis que tu es spécialiste dans ce domaine des migraines, tu as accompagné plusieurs personnes
Je ne suis pas spécialiste. J'étais gastro-entérologue. Donc j'ai vu des migraineux.
D'accord.
Mais je n'en ai pas vu des milliers de migraines, j'en ai vu quelques-uns.
D'accord. Parce qu'il y a eu un rapport aussi par rapport à la partie gastro-entérologie. Tu as remarqué qu'il y avait aussi un terrain peut-être lié aussi.
Oui, il y a ce qu'on appelle les migraines accompagnées, donc des gens qui ont des problèmes digestifs.
D'accord.
Et moi, le cas le plus important dont je me rappelle, c'était une jeune fille qui devait avoir 13 ou 14 ans ou. Avec des méthodes un peu comme ça, je ne faisais pas de façon aussi précise à l'époque, mais ça avait été vraiment très, très efficace, quoi. Alors qu'elle avait des migraines vraiment très, très fréquentes, très violentes.
D'accord, ok,
hospitalisées, hein.
Super.
Donc, c'est des pistes, hein. Je ne dis pas que ça marche tout le
temps. Non, mais c'est très intéressant parce que je n'aurais pas pensé aller chercher la première. Et je pense que la première, c'est une vraie porte d'entrée, en fait.
Oui. Ben, moi, j'ai vu, enfin, j'ai trouvé ça parce que j'avais vu, je me rappelle d'une jeune femme, jeune pour moi, qui avait 35 ans à peu près, qui avait des douleurs sous-costales droites tellement intenses que ça la désespérait, en sachant que en 2 ans et demi, date d'apparition de ces douleurs, elle avait eu tout un bilan, elle avait eu les scanners, échographie, machin, et elle avait eu une cholécystectomie, c'est-à-dire on lui avait enlevé la vésicule et ses douleurs étaient inchangées. Et en faisant une séance, on a traité les conséquences de sa douleur, et notamment la situation, c'était le chirurgien qui baissait les yeux, et tout, c'est pas que tout a disparu, c'est qu'elle est venue me voir en disant « Ah, merveilleux, tout va bien ». Je lui ai dit « Bon, super, c'est bien plus calme ». Et je lui ai dit « Et vos douleurs, elle en est où ?» Et elle m'a décrit exactement la même douleur, qui, en l'examinant, était certainement due à une côte légèrement déplacée. Simplement, la douleur, c'était, mettons, 1, et l'émotion liée à ça, c'était 99%. D'accord. Donc, en fait, elle avait toujours mal, mais ça prenait, ça avait pas les mêmes proportions.
Plus les proportions, oui.
Et c'est dans des cas comme ça où je me suis rendu compte que la prise en charge médicale inadaptée, c'est-à-dire toute la dramatisation ouverte, c'est-à-dire la préoccupation du médecin ou l'attente, hein, on va faire des examens, c'est anxiogène. Moi, j'ai vu des gens, le truc qui déclenchait l'émotion, c'est le regard du radiologue sur la radio. Simplement parce que le regard était attentif, et le regard attentif était interprété comme soucieux et angoissé. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens plus émotifs chez qui la réaction émotionnelle prend des proportions.
Bien sûr.
Mais est sous-évaluée, sous-estimée. Quand je parlais de l'émotion sous-estimée, ça peut être aussi par l'entourage, parce qu'on est tellement focalisé sur le symptôme qu'on fait on dissèque les gens et on ne les écoute pas toujours.
Merci beaucoup. Très clair.
Il n'y a plus qu'à passer à l'acte
maintenant. Oui, c'est ça.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le psychosomatique, c'est délicat. Hein. Faut être prudent, hein, ça vous le savez. Hein. Je déborde un peu. C'est souvent des émotions cachées. Sandrine et Laurence veulent prendre la parole, c'est ça?
Oui, si je peux.
Oui, vas-y.
D'abord, un témoignage sur les émotions sous-estimées et la rationalisation. Oui. On m'a demandé, le collège doctoral de l'université de Grenoble m'a demandé d'assurer la prise en charge des doctorants qui sont pas bien à cause du confinement et donc qui s'inscrivent volontairement, hein, s'ils se sentent pas bien, ils s'inscrivent à cet atelier que j'anime par Zoom. Et quand je leur ai demandé comment ils se sentaient, ils ont tous commencé par dire qu'ils avaient de la chance comparé aux autres. Oui. Mais ils avaient tous de la chance. Ils m'ont tous dit ça, qu'ils avaient énormément de chance, que leurs conditions de confinement étaient très très bonnes. Et dans ma tête, je me dis, alors, pourquoi vous êtes inscrit au stage si vous êtes super de la chance? Et du coup, je me disais que ça pouvait être une piste de dire, bon, peut-être d'accepter. Et j'ai bien entendu ce que tu as dit, de laisser tomber le ouais, j'ai de la chance, et de dire, en fait, non, ça craint, ça fait chier. Et j'en ai marre et voilà quoi.
Ça c'est la relation sociale quoi. Ça va, comment ça va? Oui, ça va bien. C'est rare qu'on dise ça va pas quoi. Donc effectivement, on sous-estime un petit peu parce qu'on c'est difficile de rentrer dans la communication intime tout de suite. Hein. Il faut passer par cette étape. Mais bon, ça je pense qu'on le sait tous plus ou moins quoi. Il y a le masque. Derrière le masque.
Mais alors du coup, ma question, c'est comment les inviter à tomber le masque, quoi, de passer du discours de « j'ai beaucoup de chance et je culpabilise un peu de pas me sentir bien alors que mes conditions de confinement sont super oui, ». Pour les admettre, les faire admettre qu'ils ont un problème puisque se sont inscrits à cette formation.
Oui, ben, après c'est une question d'habileté, puis chaque cas est différent. Hein. Dans un cas comme ça, ouais, mais j'ai de la chance, donc tout va bien pour vous. Oui, enfin tout, mais quand même, il n'y a pas de choses qui vous contrarient ou qui. Voilà, enfin, je pense que c'est un interrogateur un peu pas trop péremptoire, pas trop d'explications, pas trop de.
C'est pour ça que la journée est intéressante. En fait.
Intervenir, Jacques.
Raconter la journée, c'est intéressant, comme dit Anne-Marie. Oui, Aline, tu voulais parler.
Oui, je pense que c'est une interprétation. C'est, ce que je vais te dire, c'est possible que ça soit une interprétation qu'ils aient des émotions refoulées. Parce qu'après tout, c'est possible qu'ils aient de la gratitude et qu'ils aient conscience qu'ils ont de la chance. Je ne suis pas certaine, personnellement, que je chercherai dans ce sens-là. Ce que je peux dire, pour compléter ce que disait Jacques, c'est que j'ai eu des enfants qui avaient des migraines, qui venaient au cabinet parce que ça leur avait pris subitement et tellement violente qu'il fallait appeler le SAMU à l'école. J'en ai eu deux ou trois à la suite. Et en fait, chaque fois que les mères partaient du principe qu'il y avait quelque chose, c'est jamais là-dessus qu'on a fait les séances. Parce que moi, je pense que la personne, je te dis franchement, je pense qu'elle nous guide souvent. Et que...
Oui, bien sûr. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, la personne peut dire « Ah, mais j'ai de la chance, etc. » Et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que la solitude, ça lui pèse, que le manque de contact, etc. Bon, c'est vrai. Et dans notre métier, on est là pour traiter ce qui ne va pas. Et on a parfois tendance à être tellement focalisé là-dessus qu'on ne voit pas le reste. Mais...
Alors, moi, je ne suis pas médecin, mais du tout. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ces enfants-là, il y en a un, c'est un haut potentiel. Sa mère m'a dit, même que ça l'avait, je ne sais pas, il avait 7 ans. Et lui, en fait, c'était lié à l'humiliation et à, enfin, mon interprétation après coup, de situations où il ne disait rien. C'est-à-dire où il était complètement... et les autres, c'était moins fort, mais c'était « je dis rien à la maîtresse, mais c'est injuste, je dis rien... » Mais d'emblée, comme ça, l'enfant, il ne l'exprimait pas. C'est en faisant des jeux, en parlant. Donc, je pense que les adultes, je ne sais pas... Bon, Jacques, il dit ça, ben, rit. Mais moi, je crois beaucoup que ces émotions cachées dans les migraines, en tout cas, ce que j'ai vu chez les enfants, c'était... vraiment ce qu'on fait en stage, c'est-à-dire des émotions vraiment non exprimées et sur l'échelle de Hawkins qui sont quand même celles qui affaiblissent le plus, je dirais, le corps. Voilà, et spectaculaire. Et j'ai même une mère qui a dit « Vous m'avez changé mon fils », elle était même presque en colère parce que c'est comme s'il avait eu une ouverture de conscience et qu'il ne se comportait plus du tout comme un bébé après ça. Voilà, j'arrête. Merci.
C'est sûr que les émotions... visibles, bien sûr, mais invisibles, elles obscurcissent un petit peu notre conscience et elles bloquent notre épanouissement. Enfin, je pense que vous devez tous avoir des cas de séances où les gens se sont libérés après. Les petites émotions qui restent, etc., on s'adapte, on fait avec, mais si on peut arriver à se libérer, ben on va vers de plus en plus d'épanouissement et de sérénité.
Quelquefois, il y a une chose que je fais avec mes clients, je commence par voilà, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous a laissé en paix aujourd'hui et qu'est-ce qui ne vous a pas laissé en paix. Donc, je laisse raconter tout ce qui est en paix. Donc, ça lui permet de prendre conscience de ce qui est bien. Et puis ensuite, ben, en comparaison des choses qui étaient moins bien et moins sympas. Et là, on va dessus.
Tout à fait. Voilà. C'est une façon de progressive d'aller dans le...
Et puis, c'est pas mal aussi de se remémorer ce qui a été bien, ce qui a été sympa. Hein, que la journée, il y a eu des difficultés, mais ce n'est pas forcément qu'une journée de merde.
Alors après, il ne faut pas non plus remplacer une souffrance inconsciente par une souffrance consciente, à tout prix vouloir nettoyer, etc. C'est juste une ouverture, une possibilité, une façon différente de gérer les choses. J'ai trouvé cette approche intéressante parce que ça permet de... Finalement, on ne va pas si mal, ben on peut encore aller plus loin. C'est-à-dire, ça permet de ne pas être figé dans nos blocages, dans nos contrariétés, et de ne pas se résigner, finalement. Ce n'est pas toujours si simple, hein, parce qu'on est tellement... des fois, on a tellement essayé de choses, tellement voulu sortir de situations personnelles ou relationnelles difficiles que on finit un petit peu par être résigné, surtout avec l'âge, et en se disant « bon, après tout, ça va bien, je vais faire avec. » Mais voilà, on peut encore gratter.
Et c'est intéressant. Oui, j'aurais voulu te poser une petite question, enfin plutôt que tu nous développes.
Tu as parlé tout à l'heure de procrastination, c'était très certainement lié à des émotions cachées.
Oui.
Tu as fait un référentiel avec la naissance, des problèmes de naissance. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu pourrais nous développer ça? Parce que j'ai eu ça sur des séances de coaching avec un adulte qui venait me voir juste pour ça, justement. Et c'est bien dommage que je n'ai pas eu cette info avant.
Alors, la procrastination liée à des mémoires de perte de connaissances, j'en suis pas certain. C'est des choses que j'ai lues. D'accord. C'est éprouvé. On n'y était pas. Il n'y avait pas les journalistes au moment de la naissance, donc on ne sait pas. Mais il y a des liens qui ont été faits. Après, c'est sûr que la procrastination, pour ceux qui connaissent, qui l'ont vécu, on a comme quelque chose à faire. Et puis au bout d'un moment, pouf, on est plombé. Et même parfois, soit on fait l'effort parce qu'il faut à tout prix et ça peut être épuisant. Ou on se retrouve une heure après en train de faire autre chose en disant « zut, j'ai toujours pas écrit ce mail ». Donc, la solution, moi je l'ai expérimenté parce que je me suis toujours dit, je suis un feignant qui travaille beaucoup. Parce que j'avais des envies, puis des fois j'ai des coups de mou. Et simplement, il faut juste le savoir et que c'est. Est-ce que c'est une émotion? C'est vraiment. C'est de l'ordre du figement. C'est-à-dire, je suis coupé, j'arrive plus à avoir l'envie, j'arrive plus à avoir l'énergie. Et après, il y a la prise en charge qui n'est pas forcément facile parce que le symptôme survient souvent après le nœud émotionnel. D'où l'intérêt parfois de revenir et de trouver d'autres situations où ça se manifeste. C'est-à-dire qu'il y a la procrastination, on a vraiment l'impression que le fusible a disjoncté. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant et le moteur est en panne. Mais il peut y avoir associé d'autres situations dans la vie où c'est pas la vraie coupure, c'est je veux faire quelque chose, mais je n'ai pas le courage quelque part. Donc ça, c'est juste qu'il faut, l'identifier, l'accueillir, l'accepter. Alors à ce moment-là, la gestion émotionnelle, ça fait quoi dans votre corps? Et souvent, c'est rien. Donc ça, vous le savez, hein. C'est quoi ce rien? Je laisse faire et ça passe au bout d'un moment. Il faut traverser une sorte de vide.
D'accord. Et est-ce que je te remercie. Et est-ce que tu aurais une vidéo à nous donner sur justement par rapport aux émotions?
Une vidéo?
Non, une biblio.
Oui. j'en ai plein, oui, mais j'ai transmis au moment des formations, j'ai transmis l'essentiel.
Ah, il faudra que je regarde alors. Je regarderai, ouais. D'accord. Merci. Merci beaucoup.
Il y en a des bouquins sur les émotions. Il y en a des tonnes. Chaque fois, je les en découvre. J'ai l'impression que je ne connais rien. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Au bout d'un moment, ça se recoupe. Et puis, des méthodes de gestion des émotions. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais vous allez sur Google et vous faites régulation émotionnelle. La dernière fois que j'y suis allé, il y avait 1 800 000 références. Et les études des années 60, 70. Et puis, si on va chercher dans le Lao Tse, les méditations bouddhistes, etc., on retrouve ça aussi.
Donc, j'avais trouvé ça dans Plaidoyer pour le bonheur, Mathieu Ricard, où il analyse effectivement pas mal les émotions.
Voilà.
Mais c'est plutôt dans le lien entre certaines émotions, si tu veux. C'est ce qui me manque au jour d'aujourd'hui.
Oui, oui.
Alors, peut-être que j'intellectualise un peu trop.
Oui. Est-ce que je peux intervenir pour répondre à... Oui, c'est Dominique, bonjour. Au niveau des émotions, moi je fais des formations dans les écoles, justement aux enseignants, pour qu'ils puissent mettre à distance un peu plus leurs émotions et prendre en compte celles des élèves. Et je m'appuie beaucoup sur les recherches et sur, à partir des livres de Catherine Emelet-Périssol et de sa fille aussi, je crois, Aurore Emelet-Périssol. En tout cas, c'est Catherine Emelet-Périssol qui décrit bien les mécanismes et aussi qui donne des pistes très intéressantes. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup pour les enfants du primaire et de la maternelle.
Ça s'écrit comment?
M-L-A-I. Je vais l'écrire.
Oui, tu l'écris dans les messages. Merci. Oui.
Ouais.
Alors, c'est vrai, il y a des bouquins sur, je crois que Il y en a tellement, tellement. Et des gens, moi j'étais impressionné par des gens qui ont travaillé, mais enfin, c'est toute leur vie pratiquement, des années, un travail immense et tout, et qui nous permettent de mieux comprendre les choses. Qui nous, on lit un livre, c'est un peu pénible, mais ça économise des mois et des années de compréhension. Hein. Notamment tous ceux qui ont mis en évidence le stress post-traumatique, ça date des années 80, hein. c'est pas si fréquent. Avant, les gens, on les prenait pour des fous, des schizophrènes ou des psychopathes. Donc, j'ai eu souvent l'impression que certaines manifestations, notamment les somatisations, ça intervenait un peu dans le cadre d'un stress post-traumatique. C'est-à-dire un traumatisme que j'ai subi parfois à la naissance, parfois tout petit, toute petite, agissait des décennies après. J'ai vu ça pour des phobies, mais j'ai vu ça pour des manifestations psychosomatiques. Je me rappelle notamment d'une personne qui avait des douleurs d'estomac. Ce n'était même pas avec une régulation émotionnelle, c'est avec une séance de MDR, 20 ans de douleur d'estomac disparu en une séance parce qu'on avait touché le nœud émotionnel. Et parfois, ce nœud émotionnel, il est là, il est sous nos yeux, mais on ne le voit pas parce qu'on n'ouvre pas, on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que je vous explique tout ça. C'est-à-dire d'avoir simplement la démarche, quelle est l'émotion, la démarche soi-même déjà d'observer la personne, et pas essayer de trop expliquer pourquoi, comment, et dites-moi votre émotion. C'est non, il y a une émotion, ça fait quoi dans votre corps là maintenant, hein? Raccordement au sensoriel. Donc des fois, c'est à fleur de peau. C'est très, très étonnant. Et les gens, ils vivent avec ça, ils s'habituent. On a un caillou dans la chaussure, ça fait 20 ans, mais bon, je suis habitué. Et des fois, moi, j'ai eu souvent l'impression de vider la chaussure, de enlever le caillou, c'est tout. Et c'est parfois très simple. Et moi, la personne dont je vous parle qui avait ses douleurs d'estomac depuis 20 ans, elle avait une pile d'examens, d'endoscopie, de radio, de je ne sais pas quoi, et une pile d'ordonnances qui était impressionnante. Donc c'est juste essayer d'observer ça. Oui, Florence.
J'ai une dernière question par rapport à des maladies dites chroniques, entre guillemets, du style asthme par exemple. Ou oui. Asthme de l'effort, par exemple, ce genre de problématiques. Est-ce que vous avez déjà rencontré ces problématiques-là? Parce que c'est quand même assez spécifique et comme c'est du chronique.
Il y a un facteur émotionnel qui me semble évident. Alors, j'étais gastro-entérologue, donc je n'ai pas vu beaucoup d'asthme, mais j'ai des gens j'ai entendu parler de gens qui allaient mieux. Moi, j'ai vu beaucoup de gens avec des troubles fonctionnels intestinaux, des gens, j'ai une amie que j'ai suivie depuis longtemps pour une rectocolite hémorragique qui n'a plus aucun symptôme depuis peut-être pas 10 ans, mais pas loin, quoi. Aucun symptôme, aucun médicament.
D'accord, donc vraiment, tout ce qu'on pourrait imaginer de chronique, 30 ans d'asthme, ça peut être régulé, entre guillemets.
Oui, je pense, oui. En psychosomatique. Dans des situations quand même très ancrées dans le corps, des asthmes, ou plein de maladies, la rectocolite, toutes les maladies possibles, qui ont certainement un facteur émotionnel, ne serait-ce que la conséquence, mais probablement aussi un terrain génétique, local, etc. On ne va peut-être pas faire des miracles, mais si on peut espacer les crises, si on peut rendre la gestion des crises moins anxiogène, atténuer les répercussions.
D'accord.
Je ne dis pas qu'on va tout régler. Hein. Faut
ça, on peut, quand on peut agir.
Oui, globalement, il y a des gens dont les symptômes, moi j'ai plein de cas de gens dont les symptômes ont complètement disparu, hein, avec du recul, beaucoup de recul pour certains, puis d'autres ont l'impression qu'on atténue, qu'on ne règle pas tout, surtout quand on rentre dans les maladies.
Moi, les gens disent en fait, c'était pas le plus important quand les symptômes sont encore là, ils disent oui. Ce qui était important, c'était ce qui n'allait pas dans ma vie, et donc ils ont régulé ce qui n'allait pas dans leur vie.
Oui.
Moi, j'aimerais savoir, c'est Emeline qui parle, est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous validez l'idée que la régulation émotionnelle permet, pas forcément la première fois, mais de lever l'amnésie traumatique?
Oui, j'ai observé ça. Pas tout le temps, hein, pas tout le temps.
Pas tout le temps, mais moi, je me dis, c'est quand même un apport incroyable.
Oui.
De pouvoir concourir à cette levée de l'amnésie traumatique.
Oui.
Donc voilà.
J'ai souvent observé au cours de séances des souvenirs qui revenaient. C'est-à-dire, on part de, je me rappelle une dame qui avait douleur de ventre, diarrhée, angoisse, irritabilité constante. Et au cours de la séance, elle s'est rappelée un événement où son père entrait aviné le soir, la serrait un peu trop. Et ça a déclenché une très forte émotion. Et la libération de l'émotion a fait que, après, elle me dit, mais au travail, mon ami, on ne me reconnaît plus, quoi. Elle disait, non, mais là, normalement, tu devrais t'énerver. Donc, c'est sûr qu'on peut toucher des trucs comme ça. Et souvent, c'est très spectaculaire.
D'accord. C'est et la phrase, si je m'écoutais, je m'entendrais, je ne me souviens plus de qui elle est. C'était qui?
C'est Jacques, c'est Salomé. C'est Jacques Salomé, ça, non?
Ah, c'est ça. D'accord. Oui. Merci, Jacques Fumex.
Merci, Emeline.
Didier, est-ce que je peux te poser une question? Je partage ton opinion sur l'aspect post-traumatique, on va dire, de toute manifestation.
Oui.
Dans cette mesure-là, est-ce que on pourrait, au lieu de parler d'émotions cachées, est-ce qu'il serait pas plus adapté de parler de traumatisme figé, dans la mesure où l'émotion, elle peut donner une manifestation du quotidien, hein, émotionnel.
Oui.
Et elle peut donner aussi, dans ce mot qui est toujours un peu ambigu, d'émotion. Il y a également l'émotion de la libération du traumatisme. Oui. C'est deux choses différentes et qui portent le même terme, en fait.
Oui.
Donc, voilà. Que penses-tu de cet aspect-là, de parler d'émotions cachées, de traumatisme caché plutôt que d'émotions cachées?
Oui, oui, oui. Ça revient au même. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, le traumatisme figé, c'est la définition du stress post-traumatique, c'est-à-dire comme le traumatisme n'a pas pu s'exprimer, enfin Gilbert nous avait bien parlé aussi, il y a un truc qui bouillonne, quoi. On appelle ça une mémoire tampon. Et effectivement, c'est parce que le traumatisme se défiche que l'émotion sort. Alors après, effectivement, c'est... Oui. Oui. Moi, ça ne me gêne pas, l'appellation, j'ai appelé ça comme ça parce que c'est venu, mais je crois qu'il faut chacun appeler les choses comme on la comprend.
Tout à fait.
Traumatisme figé, oui. Oui, oui, oui.
Et une autre remarque aussi, une démarche que j'apprécie, là, qui est celle de la narration, en fait, d'être dans l'attention de ce qui se passe pendant que la personne raconte, en fait.
Oui, 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 oui.
Là, c'est une démarche qui est totalement humaine, quoi, qui est pas introspective, en fait. Il y a beaucoup de liberté dans cette démarche-là,
voilà,
je trouve.
Voilà, voilà. Et on prend ce qui vient, du coup. Et quand les gens racontent une histoire, ils sont pas en train de calculer, quoi.
C'est ça. Ni de rechercher, ouais, tout à fait. Oui.
Gilbert, tu voulais parler, je crois.
Oui, alors, j'ai deux petites remarques. Donc, en ce qui concerne l'asthme, j'ai eu beaucoup de cas, des cas dans lesquels il y avait vraiment une émotion qui coupait le souffle dans la petite enfance et que l'on retrouvait, la personne faisait des crises et puis si on arrivait à retrouver cet instant, et bien, en parlant d'émotions cachées ou figées, peu importe, l'asthme guérissait après.
Oui.
Ça, j'en ai vu quelques cas.
Oui.
En tant que médecin homéopathe, hein, j'étais médecin homéopathe. Mmh. Et deuxième cas, j'en ai vu beaucoup, alors, chez les enfants et adolescents, après le vaccin anticoqueluche.
Mmh. Ah, oui.
Une catastrophe. Oui. Ces gamins, on leur fait le vaccin anticoqueluche, ils font des bronchiolites après tous les hivers quand il fait froid humide, et après ils font de l'asthme derrière. Donc ça, il faut le savoir, il faut voir un homéopathe pour soigner ça. C'est facile à soigner en homéopathie. Oui. Après, en ce qui concerne les migraines, je vous avais parlé l'autre fois dans le topo sur Porge, Stephen Porge, d'un gars qui s'appelle Stanley Rosenberg et qui propose des exercices que vous avez montré dans celui-là. Il dit que dans les migraines, il y a des points sensibles, des trigger points, sur les sternocleidomastoïdiens. Et selon la localisation de la migraine, il y a certains points. Donc, et ces points, il suffit de les déterminer et de les masser tout doucement, tout doucement, tout doucement, et la migraine diminue. Donc ça, je peux envoyer à Olivier le petit topo, les dessins et le topo qui va avec sur la trigger points. Avec un copain EMDR, on a traduit ça, et si vous pouvez le mettre à disposition des... Après, quand on montre ça au patient, si vous lui demandez la permission de poser la main sur son cou, hein, il aurait évidemment demandé la permission, vous trouvez le trigger point, vous le faites bouger, vous le massez tout doucement, tout doucement, tout doucement, et la personne sent « Ah tiens, ça se détend, mon cou se détend ». Ça peut être intéressant comme trousse de secours entre deux séances.
D'accord, merci beaucoup.
Merci, merci, oui. Ce qui permet de rappeler que ben, tous les symptômes qu'on peut avoir, ils sont multifactoriels, quoi. Bien sûr, il y a les émotions qui s'entremêlent avec beaucoup d'autres choses. Hein, et...
Ça n'enlève rien, ce que je dis, que j'approuve totalement, ouais. Et qui m'a appris beaucoup de choses en même temps sur les émotions, hein, et sur les migraines. Hein. Ça n'enlève rien, ce que je viens de dire.
Didier, envoie-moi le document, je le mettrai sur ta page où il y a le
webinaire. Du webinaire, oui.
Merci.
Ah oui, à chaque webinaire, donnez-moi des documents, je les mettrai sur la page.
D'accord.
Parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai pu mettre, mais il y en a d'autres qui datent d'il y a longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des documents pour mettre sur votre page si vous avez fait un webinaire.
Oui. Oui, sur le site, il y a grâce à Olivier notamment, mais aussi Sophie, il y a de plus en plus de choses, hein, d'informations. Il y a tous les webinaires passés, il y a des documents. Donc voilà. Et on a combien d'adhérents maintenant? On a passé 100, hein, je crois.
Là, aujourd'hui, on est à 101.
Ah oui, c'est bien.
Voilà. C'est d'une grande richesse, hein, vos conférences. Hein,
je vais vous le dire. Intéressant, hein. Oui, c'est vrai.
Et ça doit être le 24e ou le 25e webinaire qui est disponible.
Ah oui, ouais, super. Oui,
je peux donner un petit témoignage?
Oui, Simone, bien sûr.
Voilà. Donc, par rapport aux différents symptômes dont on vient de parler, moi, ça m'arrive de dire ben, qu'est-ce qui vous peut plaire à ce point-là pour l'asthme, oui, voilà. Ou bien pour l'estomac, ben, qu'est-ce que vous n'avez pas digéré, ou voilà. Enfin, rentrer dans, le langage en fait, du corps. Et souvent, ça aide la personne à trouver, ben oui, il y a ça, etc. Et à ce moment-là, on peut faire la séance de régulation. C'est vrai que ça aide beaucoup. Et puis, juste pour la migraine, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. C'est effectivement, les gens montrent l'arrière du crâne. Quelquefois, il y a des choses qui se sont passées à l'adolescence. Je pense à une de mes secrétaires qui a fait une tuberculose étant jeune, qui a été dans un sanatorium, c'était il y a longtemps. Et à l'adolescence, elle était blonde, aux yeux bleus, à souhait. Et elle a été approchée par le grand-père qui se trouvait dans le même endroit. Et elle n'a jamais fait de travail par rapport à ça, mais ces migraines datent de l'adolescence.
Oui,
donc il peut y avoir aussi des traumatismes de cet ordre-là.
Des traumatismes figés. Je pensais bien, le mot figé me parle bien.
Je peux te demander une précision concernant les souffrances physiques. Je voulais savoir si tu abordais cela en termes de sensations directes ou si tu faisais tu proposais à la personne de revenir au moment précédent l'apparition des symptômes.
Pour des symptômes en général, tu veux dire?
Physique, je parle de symptômes physiques à type douloureux. Hein.
Oui, oui. Non, comment dire, premièrement, enfin, les plusieurs étapes, hein, l'émotion du symptôme, là maintenant, ça vous fait quoi de penser que vous avez des migraines, des maux de ventre? Deuxièmement, s'il y a une situation qui précède, c'est la situation qu'on. Par exemple, chaque fois que je vais en public, j'ai mal au ventre, de situation, racontez-moi au présent. Moi, je dis comme ça, racontez-moi au présent. J'arrive dans le restaurant, enfin, c'est un cas précis. Je rentre dans le restaurant, puis là, voilà, je me rappelle le visage de la personne qui se crisse. Ça fait quoi dans votre corps là, maintenant? C'est-à-dire, je ne lui demande pas de choisir l'instant, l'émotion, etc. Ça, je ne dis plus. Je, dans la narration, j'observe que la personne est en émotion. Ça fait quoi dans votre temps d'analyse ?
Direct.
Voilà. Et puis l'autre solution, bah, c'est comme on disait, de raconter la journée qui peut être précédée quand on ne trouve pas l'événement qui déclenche. Mais non, ce qui était conseillé, c'est de revenir un peu avant, c'est pour les procrastinations. Je l'ai essayé, mais c'était déjà dans le livre de Brandon Bess sur le voyage de guérison, hein, qui date de 92, elle en parlait de ça déjà, de revenir une seconde avant. C'est un peu, ça me semble un peu intellectuel, j'ai un peu du mal à rentrer là-dedans. Et quand on le fait pour soi, ben on se raconte le film en fait. Hein. Ben voilà, et alors c'est vrai que pour soi c'est moins facile quand même. Hein. Quand on regarde quelqu'un, la personne est à la fois neutre et accompagne, donc elle peut nous mettre, bon ça fait quoi dans ton corps là maintenant, mais pourquoi elle me demande ça, mais ben oui finalement... Mais on peut y arriver tout seul, moi j'ai testé. Simone, ouais. Je te vois parler, mais je ne t'entends pas. Je ne sais pas si tu...
Tu m'avais conseillé de le faire pour le tabac. De, oui. De regarder la seconde avant de prendre la cigarette. Oui. Et quand j'ai fait ça pour mon gendre, ça a super bien marché. Oui. Parce que, bon, en fait, il avait son patron qui l'énervait. Et donc, oui, il sortait une cigarette.
Alors, peut-être que... intellectuellement, c'est peut-être... Mais c'est là où, quand on observe la personne qui raconte, ben, mon patron arrive et je vais prendre la cigarette, peut-être qu'un peu avant, en l'observant bien, on a recherché et on peut lui demander « Et là, maintenant, ça fait quoi dans ton corps ?» avant qu'il prenne la cigarette, tu comprends ? Parce que j'ai trouvé que « Reviens une seconde avant de prendre la cigarette », je trouvais que c'était un peu compliqué comme exercice. Florence.
Et donc, du coup, tu quand tu dis que c'est un tout petit peu compliqué la seconde d'avant, tu vas où du coup ?
Ben, la personne raconte, par exemple, ben voilà, raconte-moi une fois où t'as voulu, le besoin de fumer était impérieux. Ben voilà, c'est quand j'ai rencontré mon directeur ou je sais pas qui.
D'accord.
Raconte okay. Au présent. Et on ne sait pas tellement de se référer à ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe quand la personne raconte sa situation.
Tout à fait.
Je sors du bureau du directeur et là on voit la personne qui est contrariée, elle revit. Hein. C'est l'effet comme si en hypnose, c'était démontré en IRM. Hein. Le comme si, c'est quand je raconte que je me remets dans la situation, mon cerveau il fonctionne comme si j'y étais. D'accord. Et moi, je capte de l'extérieur, je capte l'émotion. D'accord. Et je ne lui demande pas de me dire, ben là, je prends une cigarette. Dès le moment où je vois que je sens son stress, il vient fermer la porte du directeur et il va prendre sa cigarette, je lui dis, ça fait quoi dans votre corps là maintenant ? C'est presque un test pour voir ce que ça lui fait. Peut-être que ça ne lui fait rien, mais souvent, ça fait quelque chose. C'est rare qu'on se trompe.
Super, ok, c'est clair.
Et ça me semble plus simple, moi, plus naturel en tout cas.
Oui.
Pour les problèmes somatiques, moi j'ai utilisé avec succès le décodage biologique, c'est-à-dire d'aller, quand la personne sèche, elle dit bah, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de raison, je ne sais pas exactement, on peut lui souffler que ça pourrait peut-être, enfin qu'il faudrait regarder de tel côté ou de tel côté. Et du coup, ça ouvre un champ de possibles. Souvent, permet de résoudre effectivement des problèmes physiques.
D'accord.
Je pense en particulier des gens de Parkinson, tu sais, le geste qu'on n'a pas pu faire. Si on leur pose la question comme ça, quel geste vous n'avez pas pu faire à un moment dans votre vie, ça vient et on ne guérit pas forcément, hein, c'est évident. Mais on stabilise, on arrête l'évolution.
Oui.
J'ai deux cas comme ça, ça fait 8 ans ou 9 ans, ça n'a pas bougé d'un poil, ça n'a pas empiré, et ça va plutôt bien. Donc, c'est aussi une piste pour revenir. Et on n'a pas besoin d'être spécialiste, on prend un dictionnaire, on regarde un petit peu en fonction de la problématique et on peut poser des questions complètement ouvertes et qui font souvent écho.
Voilà. Oui. Il ne faut pas que ce soit une recette parce que ça reste intellectuel, mais ça, c'est une piste, on propose des pistes.
Ben, c'est ça.
faut comme voilà, comme les suggestions en hypnose, on essaye une, on passe une clé à molette, ça marche pas, on passe une pince, on passe une.
Voilà. Et quand ça coince avec la technique qui est très intéressante que nous a exprimé Jacques, eh bien on peut aussi essayer ça. Je pense à ça pour l'asthme ou pour d'autres choses.
Je répète tout le temps, vous savez quel est le meilleur traitement? C'est une colle.
Moi, je sais.
C'est parce que tu as redoublé.
Ouais,
parce que j'adore. Moi, j'ai toujours aux gens, le meilleur traitement, c'est celui qui marche.
Ah.
Et si c'est de la tisane, tant mieux, ça coûte
pas cher. Bravo.
Voilà, après, il faut juste rester lucide, conscient de ce qu'on fait, pas faire n'importe quoi, mais bon, je pense que vous êtes grand, ouais. Bien sûr. Parce qu'on est quand même dans un système médical qui impose beaucoup les choses, qui a une espèce d'autorité un peu brutale parfois.
Je voudrais dire ça au professeur Raoult.
Ben oui, oui, finalement. Pourquoi pas, hein. Je ne pense pas qu'il serait contre. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Il ne faut pas prendre de risques, mais il y a souvent des choses simples qui marchent mieux que des trucs tellement compliqués, élaborés et plus ou moins toxiques. Hein. J'avais lu il y a quelque temps et j'ai lu récemment, donc c'est une confirmation, qu'en France, il y a 50 000 décès par an d'accidents médicamenteux, infections nosocomiales, etc. C'est bien plus que le Covid. Et c'est tous les ans.
Ouais.
Voilà, voilà.
Je voudrais partager quelque chose avec vous. Là, à plusieurs reprises, chez certaines personnes qui sont venues me voir, j'avais repéré qu'elles avaient beaucoup de mal à identifier leurs émotions, soit, comme tu le disais, Jacques, elles sont enfouies, cachées. Mais parfois aussi, l'une peut se substituer à une autre. Exemple, j'ai vu plusieurs dames qui se mettaient à pleurer et qui étaient envahies de tristesse alors que c'était la colère qui n'avait jamais pu être exprimée, par exemple.
Ben oui, parfois les émotions sont mélangées. Hein. Colère plus tristesse, ça donne de l'amertume. L'émotion, c'est comme les palettes des couleurs. Ça peut être une couleur original, mais il y a souvent des mélanges, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, faire une résolution émotionnelle sur une émotion, c'est souvent pas suffisant. Et je sais pas si vous avez testé, enfin moi ça m'a donné lieu à pas mal de réflexions, vous faites une séance type IMRS que vous voulez, après vous demandez à la personne comment elle se sent et comment elle voit son problème, c'est rarement tout blanc et tout net. Hein.
Oui.
Et je pense que les résolutions émotionnelles, il n'y a pas de raison d'en faire qu'une, et puis non, il ne faut plus en faire, même en différé. On a eu des exercices, moi j'en ai fait aussi dans les consultations que je fais encore, avoir 4, 5, 6, 10 résolutions émotionnelles dans la même séance, ça ne va pas plus mal.
Et puis, plus complet
en tout cas.
Je voulais te demander, Jacques, s'il était arrivé de recevoir une personne, un client qui n'arrivait pas à du tout soit rentrer dans ses émotions, soit les faire paraître, soit il n'arrivait pas du tout à les identifier et il ne restait que dans le mental.
Oui, oui, bien sûr, ça m'est arrivé, bien sûr.
Et alors ?
Ben après, on développe des trucs. D'abord, l'idée, c'est de pas insister, de pas forcer les choses. Oui. Mais dans la mesure où la personne vient pour, en principe, régler un problème, moi, je ne m'acharne pas, je passe sur autre chose. L'autre chose, ça peut être de capter ce qui est là, c'est-à-dire la personne, elle voudrait bien, elle n'y arrive pas. Ça vous fait quoi de ne pas y arriver? Ou comment vous vivez les choses? Ben, ça me contrarie, vos trucs. Comment vous sentez la contrariété dans votre corps? C'est-à-dire, il ne faut pas se figer, vouloir arriver à tout prix. Il faut faire un peu comme du tai chi ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas spécialiste, mais il faut accompagner la personne.
Oui, mais je retiens l'idée là, de la narration sur la journée. Merci.
Et puis, il y a des gens qui ont l'esprit vif, qui sont dans le mental et tout. Ben, et ça demande parfois de la patience. Hein. On ne peut pas tout régler en un coup, c'est sûr.
Tout à fait, oui. Merci.
Puis des fois, ce n'est pas le moment. Mais même si la personne vient, on n'a pas fait rentrer dans le corps, etc. C'est une étape, c'est-à-dire il n'est pas, il n'a pas monté 4 à 4, mais il a fait 2-3 pas. Et ça incite une réflexion. Et il se passe toujours quelque chose, de toute façon. Ah, mais j'arrive pas à faire ça, c'est pas pour moi, etc. Et ça vous fait quoi que de constater que vous ne rentrez pas? C'est pas non plus, il n'y a aucun traitement, aucune méthode n'est la panacée universelle. Ça ne marche jamais dans 100% des cas. Puis ce qui marche à un moment ne marche pas à un autre, etc. Il faut juste s'adapter et trouver le bon truc au bon moment.
Oui, là-dessus, moi, pour te répondre sur un cas que j'ai eu cette semaine, une femme qui a des douleurs partout depuis des années, qui assume quelque chose d'un peu difficile parce que son mari est militaire actuellement, je ne sais pas où, en Guadeloupe, il distribue des masques et elle a démarré ses douleurs. C'était apparemment psychosomatique il y a 4 ans après une dispute où il lui disait qu'elle ne faisait pas ce qu'il fallait quand il arrivait. On n'est absolument pas parti de ça et je n'arrivais absolument à rien. Je pense que c'est toujours intéressant ces choses-là parce que j'ai vraiment tout essayé et ce qui a marché en fait... Elle ne lâchait jamais, et pourtant, on sait faire, je veux dire, avec les formations, c'est de... d'ailleurs, je lui ai conseillé d'aller voir un médecin. Je ne dirai pas son nom, si vous voulez, je le dirai, qui travaille sur l'intoxication aux métaux lourds, parce qu'elle avait vraiment, pour moi, des symptômes... dans ce qu'elle décrivait. Donc, on lui avait conseillé quelqu'un d'aller voir un exorciste qui lui a dit qu'elle était trop sensible. Et ce qui a marché, en fait, et comme pour des enfants, c'est de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire d'agrandir le sentiment, comme disait Olivier, je pense, de choses qui vont bien. Donc, une partie de son corps où on amène sa conscience et puis la lumière, en fait, un rayon de soleil. Il ne faut pas être, ésotérique avec quelqu'un comme ça, parce qu'elle a très peur de tout ce qui peut être ésotérique. Et en fait, après, agrandir en conscience à tout son corps ce sentiment de bien-être. Et là, je ne savais pas du tout s'il y aurait un résultat, parce que j'avais fait une séance où elle lâchait, mais jamais, mais quel que soit ce que j'essayais, c'est-à-dire... trop de concentration, trop de contrôle, enfin, etc. Et là, elle a écrit un message, elle a dit pour la première fois, elle avait un sentiment de détente et de bien-être qui était venu, puis qui était parti, puis qui revenait. Voilà, donc il ne faut pas oublier que Jacques est médecin, donc je l'ai envoyé chez un médecin parce que de mon point de vue, ce qu'elle a décrit, elle a eu des déposes, etc. Enfin, moi, j'investigue quand même, parce que je pars toujours du principe qu'il peut y avoir quelque chose quand même de médical si la personne n'a pas fait certaines investigations. Et voilà, ma grande surprise, parce que je fais beaucoup ça avec les enfants, je renforce tout ce qui est positif, ce que j'appelle les ressources. C'est-à-dire chez les hauts potentiels, si on enlève quelque chose et si on ne change pas en quelque sorte le circuit neuronal qui a produit, je vois tout ce qui ne va pas, sans arrêt mes idées tombent. Si on ne renforce pas, par exemple, on va dire la confiance ou le sentiment de force ou de la détente, ça a tendance à revenir. Voilà, c'est qu'une expérience, mais je pense que cette femme m'a convaincue qu'avec certaines personnes, il ne faut pas s'obstiner, il faut faire exactement, je dirais, c'est comme l'âne de Milton Erickson. D'ailleurs, je lui ai dit, c'est-à-dire on veut à tout prix le pousser, le tirer pour qu'il aille dans l'étape. Voilà, il faut faire comme lui. Qui a en fait tiré la queue pour le faire reculer et l'âne est rentrée dans l'étable. Voilà, Jacques, il vous le raconterait mieux que moi.
Je crois que c'était un veau, mais...
C'est un veau, d'accord. Il y en a qui disent un âne.
On appelle la méthode
utile. Je pense que c'est significatif, les résistances. Et il y a des gens qui ont tellement mal, comment dire, que c'est comme si ça... Enfin, les enfants, en tout cas, elle, c'est une adulte, donc ça me confirme. Que pour ces gens qui sont axés que sur ce qui ne va pas, je dirais, et toutes les douleurs, c'est quasiment impossible de lâcher. Enfin, de mon expérience, j'en ai eu plusieurs. Voilà. Je ne sais pas si ça peut te répondre un petit peu. Voilà. Mais je suis d'accord avec Jacques, on expérimente, c'est-à-dire on essaye autre chose. Moi, quand je me sens mal à l'aise parce que je m'obstine, je me dis, mais pourquoi je veux ça, en fait ? Peut-être elle n'est pas prête et je crois qu'il faut changer notre état de présence et de conscience à ce moment-là. C'est-à-dire, à l'intérieur de nous-mêmes et peut-être faire même nous-mêmes en même temps. Et là, il y a comme des choses qui émergent. Voilà, c'est un témoignage. Hein. Je ne sais pas si vous avez, mettons Simone, des cas comme ça. Je pense qu'on est tous différents. Et même si on a une capacité de résolution émotionnelle, quelquefois, elle fonctionne selon des circuits très différents, je trouve. Il y a des gens qui ont plus de résistance, plus de contrôle, plus de concentration.
On sait que... des avantages à être malade hein, aussi.
Oui.
C'est tout de lâcheté.
Oui, je ne sais pas. C'est... Oui, j'ai vu une autre dame aussi cette semaine qui ne lâchait pas. J'ai que des urgences de gens vraiment... Bon, complètement. Et elle, on est tombé sur, pour ceux qui ont fait un peu de la psychanalyse et tout ça, on ne va pas psychanalyser, mais vraiment sur des attouchements. Et elle a fini, pareil, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire de, on va dire quelque chose de proche de l'hypnose, mais de la sophro, on va dire ludique pour les enfants. Et en fait, elle a fait remonter quelque chose et elle a dit on y travaillera, qu'il y avait un rapport à un inceste qui a eu lieu dans sa famille. Alors, mais moi, je n'ai pas du tout parlé de ça. Je veux dire, voilà, on est là. Et en fait, c'est en amenant des sensations positives qu'elle a pu aller là-dedans. Et par exemple, cette femme, je vous donne un exemple parce que c'est trop vague. Elle faisait ses séances sur « je ne peux pas dire bonsoir à mon quatrième enfant ». C'est plus fort que moi, j'ai l'impression si j'ai un couteau qui pense que je vais le tuer. Voilà, elle était sur des choses quand même assez particulières et j'ai renoncé à faire les séances là-dessus. Ça c'était la deuxième que je faisais parce que je voyais bien quand je faisais mesurer de 0 à 10 que ça baissait qu'à 5 ou à 6, donc je lui ai fait mesurer et donc on a investigué autrement, donc j'ai cherché dans sa vie, comme disait Jacques, des moments où elle ne s'était pas sentie bien depuis un ou deux jours, et elle a dit, ben, quand mon fils il vient, ben, ce matin il est venu dans mon lit, donc je me suis levée, je suis allée dans la salle de bain, et il m'a dit, maman, tu es partie, tu ne m'aimes pas. Donc ça a amené une discussion sur son âge, le rôle du papa, enfin, elle discutait de ça, et voilà, et hop, ça a fait remonter quelque chose mais qui est sorti tout d'un coup. Elle a dit ça me fait venir cette image de, on m'a parlé de ma grand-mère qui aurait dû avorter parce qu'elle avait eu un inceste, donc on n'a pas fait la séance dessus, mais voilà, c'est sorti. Je ne sais pas si elle fera là-dessus. Je lui ai dit de noter ce qui venait. Voilà, je vous donne ces témoignages parce que oui, ça arrive hein, qu'on ne sache pas comment faire, et moi je pense que la personne nous guide. Alors, c'est Anne-Marie hein, qui a dit quelquefois il y a des résistances, ben oui, ben, elle nous guide, voilà. Elle n'est pas prête. Je crois qu'il faut aussi accepter qu'on n'est pas tout puissant et que, voilà, rappeler la...
Bon, on ne peut pas toujours résoudre en 2, 3, 4 séances des problèmes qui datent de 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Hein. C'est déjà pas mal hein, avec ces méthodes de résolution émotionnelle. Je pense qu'on gagne beaucoup de temps quand même. Hein. On va à l'essentiel plus vite.
Ce que je voulais dire, c'est que cette femme m'a contactée parce qu'elle avait des crises d'angoisse très fortes. Et donc, elle avait revu par Skype ou je sais pas, téléconsultation son psychiatre, et elle reprenait des médicaments et son mari.
Oui, là, on n'est pas dans les émotions cachées, là, du coup.
Ben, les angoisses, elle ne savait vraiment pas pourquoi elle avait les angoisses.
Oui, mais l'angoisse était visible. Là, ce dont on parle, c'est les émotions.
Alors, moi, quand je l'ai eue,
elle
n'était pas en crise d'angoisse, mais elle disait... elle avait mené à 4 enfants de ses enfants, et elle disait que son mari lui disait ben, « Peut-être tu pourrais travailler en résolution émotionnelle, peut-être, voilà. » Mais on ne savait absolument pas. Voilà. Ce qui était caché, c'est quand même ses émotions... très très refoulées, voilà, qui sont remontées, et par rapport à son fils, c'est comme si c'était très occulté, cet évitement, voilà. Après, on pourrait beaucoup être tenté d'interpréter, là, ce que je vous dis, c'est elle qui a interprété. Moi, je me refuse à interpréter. Mmh. Donc, c'est violent, quelquefois, ce qu'on peut faire en croyant bien faire. Je crois qu'il faut vraiment laisser aux gens leur interprétation. Après, on peut donner un avis. Mais nous, on ne sait pas pour eux. Voilà.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages?
Bon, moi, je voulais juste, en parlant des émotions, enfin, avec Jacques, on n'est pas bien d'accord sur la nomination, je parle des sentiments. En analyse transactionnelle, on va parler des sentiments raquettes, c'est-à-dire ce sont des sentiments qui ne sont pas authentiques, c'est-à-dire ce qui est montré ne correspond pas à la réalité, et que la plupart du temps, en thérapie, ça ne marche pas, parce que si on veut traiter la colère alors que c'est de la tristesse, ça ne va pas aller. Pour chaque sentiment, il y a une façon de traiter. Et moi, j'ai remarqué là qu'avec MRS, on s'en moque complètement. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qui est dans le corps. Donc, que ce soit nommé de façon authentique ou pas, ce n'est pas important.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est un plus. Hein.
C'est l'expérience qui compte, pas la compréhension.
Et ouais.
Expérience sensorielle. Dans les, je suis en train de repenser là, ce que disait Didier par rapport au fait de le traumatisme ou émotion figée. Il faut quand même savoir que j'ai lu dans les bouquins, il développe ce qu'on appelle la notion d'acting out ou d'acting in. C'est-à-dire que quand on a eu un traumatisme, c'est comme une espèce de plaie qui reste, qui ne se solutionne pas, mais quelque chose à l'intérieur de nous se passe, enfin, des gens traumatisés, pour soit l'évacuer, et quand on n'y arrive pas, c'est l'acting out, donc ça peut être des comportements déviés, des addictions ou autres, qui ne sont pas en correspondance avec la réalité des choses, et l'acting in, c'est en fait, on intériorise la chose pour le digérer, ça c'est plutôt les somatisations. Donc c'est effectivement, je pense, c'est l'expression du traumatisme qui a été figé, mais il y a quand même un truc qui bouge pour évacuer cette émotion, ce traumatisme figé, un peu comme un corps étranger. Donc ça permet aussi d'aller au cœur du réacteur, si je peux dire, des moments où on l'identifie. Voilà. Bon. Merci d'être venu en tout cas, c'était sympa.
Ouais, merci infiniment.
Merci à Pèze. Donc la semaine prochaine, nous aurons Annick Delamotte qui est. Est-ce qu'elle est toujours là?
Oui, elle est là, Annick.
Elle est là, voilà, bonjour. Et qui nous parlera du lien mère-enfant dans un contexte pas d'obstétrique, puisque Annick est sage-femme et elle a beaucoup travaillé avec tout ce qui est la psychologie périnatale. Enfin, elle vous expliquera bien mieux que moi. Et probablement, ce sera intéressant que tu nous dises s'il y a des liens avec ce dont on parle, quoi, ces émotions cachées, probablement. Et probablement que les choses dont on parle, elles ont commencé peut-être avant même la petite enfance.
Oui.
Ok, merci. Je pense que ça va être très intéressant aussi, vraiment. Nick va nous donner des grandes ouvertures.
Oui. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup à tous.
Merci à vous. C'était un plaisir.
Très heureuse d'accueillir Annick jeudi prochain.
Oui.
Bonne semaine de confinement.
Merci.
À bientôt.
Merci Jacques. Merci à Pèze.
Merci Jacques. Merci. Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Merci à tous.
Ouais, merci.
Même ceux que je n'ai pas vus.